Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va parler d'addiction. On entend que l'épidémie de coronavirus et toutes les contraintes auxquelles nous avons dû nous plier, tout le stress que nous subissons ont fait augmenter la consommation d'alcool. Certains psychiatres s'inquiètent aussi concernant le tabac ou le cannabis. Eh bien, on va faire le point. Comment repérer les conduites à risque? Comment se faire aider en cette période si compliquée? Pour nous expliquer tout cela, notre invité, ce sera le professeur et psychiatre Amine Benyamina. Il est chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, président de la Fédération française d'addictologie et d'Addictaid. Ensuite, le vendredi, vous l'attendez, Benjamin Lévesque viendra dans ce studio pour sa chronique beauté. Il a décidé aujourd'hui de répondre à une question que se pose le docteur Jimmy Mohamed depuis longtemps. Une question capillaire de la plus haute importance. C'est quoi une cure de sébum, hein, Jimmy?
Vous demandez ça. Je ne sais pas comment le prendre.
Voilà, quel intérêt. Rassurez-vous, Jimmy. Benjamin nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous expliquera pourquoi être amoureux n'empêche pas toujours de regarder, de s'extasier même devant d'autres personnes que l'être aimé.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Mathilde qui vit en Normandie. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'espère que vous allez bien. J'avais une petite question, vous aviez fait une émission avant les vacances sur les nouveau-nés et le pédiatre avait dit, je crois, qu'il ne fallait pas couper totalement le cordon ombilical après l'accouchement. Je voulais savoir pourquoi en fait.
Alors pour vous répondre Mathilde, eh bien on a interrogé ce pédiatre qui était venu sur notre plateau pour discuter de tout cela. C'était le docteur Arnaud Fersdorf, pédiatre, on écoute ses précisions.
Alors à la naissance, quand un bébé vient de naître, quand il est sorti du ventre de sa maman, il est relié encore au placenta par l'intermédiaire du cordon ombilical, nous attendons, nous pédiatres, en lien avec l'obstétricien ou la sage-femme, que le premier cri ait bien lieu, que l'enfant ait bien déplissé ses poumons, de façon à ce que son système respiratoire soit compétent pour absorber et inhaler l'oxygène. Une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir clamper le cordon à ce moment-là. Donc parfois on attend une minute, parfois deux, parfois trois. Ça dépend comment l'accouchement s'est passé. Si par exemple ça a été un accouchement un peu compliqué, où l'enfant a un petit peu de mal à démarrer, eh bien on va attendre deux minutes de plus avant de clamper pour que plus d'hémoglobine, plus de globules rouges passent du placenta vers l'enfant et qui démarre bien.
Voilà, c'était les précisions du docteur Fersdorf au micro de Benjamin Lévesque. À présent, on va prendre une deuxième question d'auditeur, comme tous les jours. Celle-ci, elle est pour vous, Jimmy. Écoutez bien, c'est Elodie qui nous l'a posée sur le répondeur. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'avais une question. Ma fille, qui a 19 ans, a très mal au ventre quand elle a ses règles. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être de l'endométriose si jeune? Parce que moi, j'en ai pas, mais ma sœur, elle a eu ce souci. Je voulais savoir s'il y avait un terrain héréditaire. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, d'abord, est-ce que les douleurs au moment des règles, c'est plus fréquent peut-être chez des jeunes filles ou pas? Qu'est-ce qui fait mal finalement?
Alors, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est l'ensemble des symptômes qu'on va voir juste avant les règles. Ça touche 30 à 40% des
quand
femmes,
même, ouais.
Quel que soit leur âge. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit en avoir plus. Et ce n'est pas parce qu'on est un peu plus âgé qu'on n'en aura pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a le cycle hormonal, il y a un moment où vous avez une baisse relative de l'œstrogène qui va entraîner une augmentation de la perméabilité capillaire. Ça veut dire quoi? Que plus de liquide va pouvoir s'accumuler dans des zones qui vont faire mal. Plus de liquide au niveau des seins, c'est pour ça qu'on a de la tension mammaire. Plus de liquide au niveau du cerveau, c'est pour ça qu'il y a des troubles du comportement. Je dis ça avec des guillemets.
On peut avoir un peu faim, on peut
exactement,
avoir
on a des manifestations neurologiques.
On peut être un peu énervé.
Exactement, c'est lié à cette perméabilité qui augmente. Et on a la même chose au niveau du ventre. On a une membrane qu'on appelle le péritoine. Et on peut avoir des douleurs abdominales. Et tout ça, ça arrive juste au moment des règles ou quelques jours avant.
Alors Jimmy, il faut aussi rappeler qu'il n'est pas pensable aujourd'hui qu'une femme qui souffre à cette période, il ne faut pas qu'elle se dise « bon ben j'ai mes règles, j'ai mal, c'est normal ». À une époque c'était comme ça, non. Aujourd'hui, il y a plus efficace que la petite bouillotte de mamie. Hein.
Oui, on a trop longtemps dit aux femmes qu'elles devraient
avoir mal
lors des règles. Ouais. Et on verra après qu'on est passé à côté de certains diagnostics, notamment d'endométriose. Alors le Collège national des gynécologues obstétriciens de France conseille quelques petits trucs pratiques. On peut prendre de la vitamine B6, une à deux fois par jour avec du magnésium. Ça permettrait de soulager les douleurs. On peut aussi prendre de l'huile d'onagre, c'est aussi recommandé, sous forme de capsule durant 10 à 15 jours pour soulager les douleurs. Et parfois, on a recours à des traitements hormonaux pour soulager justement ces jeunes femmes.
Alors on va quand même répondre à cette maman. Est-ce que ça pourrait être éventuellement de l'endométriose ?
Alors, si les douleurs surviennent de façon très intense, qu'elles empêchent la jeune femme d'aller à l'école, que les médicaments comme des anti-inflammatoires ne soulagent pas, que c'est récurrent, il ne faut pas hésiter à aller à la pêche à l'endométriose. Et quand
même,
je dis
ouais.
à la pêche, c'est de pratiquer des examens complémentaires, faire une échographie pelvienne au moindre doute. Et parfois, on complète assez facilement avec une IRM pelvienne qui va permettre de détecter des signes précoces d'endométriose. Et je vous recommande
parce
d'aller
qu'à 19
dans
ans, c'est possible. Hein,
c'est
oui.
possible, évidemment. Ça touche la jeune femme dès qu'elle est en âge de procréer et qu'elle a des cycles. Donc oui, consultez à ce moment-là. Et parfois, lorsque on ne retrouve rien, il faut quand même qu'on soulage. Et donc, je vous avais dit qu'on pouvait donner des hormones. On va avoir tendance parfois à donner un petit peu de progestérone naturelle durant une dizaine de jours.
La mise sous contraceptif, par exemple, ça peut aider.
Et ensuite, on peut mettre sous contraception si on a un désir de contraception. Mais si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants et qu'on n'a pas envie de, on n'a pas envie d'avoir.
Si vous avez envie
d'avoir des enfants, on pourra vous donner autre chose pour vous soulager. Bref, ne restez pas avec vos douleurs. Consultez, on aura quelque chose à vous proposer.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Élodie qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions bien-être, santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, professeur Amine Benyamina. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Saclay, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, président de la Fédération française d'addictologie et d'Addictaid. Alors vu ce CV impressionnant, je pense que vous êtes la bonne personne pour nous parler aujourd'hui de conduite addictive, particulièrement dans le contexte actuel, parce que je crois qu'on peut dire une chose. Depuis un an, la crise sanitaire, elle a bouleversé notre vie, mais elle a bouleversé aussi les choses du côté des addictions.
Absolument. Alors, avant de parler d'addiction, je pense qu'elle a bouleversé les choses en matière de consommation. Quand on parle d'addiction, on parle déjà d'un tableau, c'est-à-dire d'un tableau pathologique. Alors que tous les Français ont été concernés, finalement, par la pandémie et par la modification de leur comportement vis-à-vis d'une consommation qui, jusqu'à présent, ne posait pas problème. Alors, il y a plusieurs catégories. C'est le sens de votre question, Mélanie. Alors, la première, qui à mon avis n'est pas celle qui a le plus été touchée, ce sont nos patients. Mmh. Alors, ils ont été touchés parce
qu'ils ont déjà des problèmes d'addiction qui vous suivent pour
nos
ça.
Nos patients
hein, ouais.
sont suivis, donc on a dû s'organiser.
Problèmes avec l'alcool,
absolument.
Le cannabis.
Au cours du premier confinement, on a tous évidemment privilégié la téléconsultation, la téléexpertise. Et sur un quota d'une centaine de patients, il y a bien 95 qui ont maintenu des liens, mais 5, en gros, qui ont été en
donc
difficulté.
Ça va.
Bon, ça va.
Problème
en gros,
limité, quoi.
Le problème a été plus ou moins limité. Ensuite, on a le monsieur tout le monde et madame tout le monde qui d'abord a eu trois sources de stress. Le premier parce qu'il avait peur d'avoir le Covid. Le deuxième parce qu'il avait peur pour la famille, tout ça. C'est l'angoisse, c'est la peur. Ensuite, c'est le confinement qui est arrivé. C'est un confinement très dur.
Le télétravail, tous à la maison ensemble.
Le télétravail, le changement
vécu,
de modification dans ses habitudes, le fait de vivre dans un espace qui était clos. Et puis la maison, dans les grandes villes, n'est pas faite pour y habiter du matin au soir. Donc ce sont des sources de stress qui très souvent ont été gérées par la majoration des prises. On verra dans le détail, il y a d'autres éléments à côté.
Et est-ce que justement, vous avez eu des profils comme ça atypiques avec, on parle en ce moment des jeunes qui ne vont pas très bien. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez eu des personnes âgées ou une moyenne d'âge qui a franchement augmenté en disant, tiens, c'est bizarre, c'est des patients que je n'ai pas l'habitude de voir. En tout cas, ils ne font pas partie de la moyenne des patients que je peux suivre habituellement.
Alors, on avait eu des personnes qui ont pris contact avec nous en primo consultation, qui étaient ce qu'on appelle des patients naïfs, qui n'avaient jamais vu de médecin, qui au cours de finalement du confinement se sont rendus compte qu'ils avaient un problème de consommation. Ils ont majoré leur consommation
d'alcool, par exemple,
parce que il y a pas plus grave que le Covid, et donc on peut se permettre de consommer. Et une hiérarchie qui s'est opérée dans l'esprit de tout le monde. Bon, l'essentiel, c'est de ne pas l'avoir. Et donc, on s'autorise des excès. Rappelez-vous, les
Zoom apéro. On a vraiment bu plus d'alcool. Voilà, j'allais dire.
Les Zoom apéro. On parlera ensuite des substances illicites. Donc, ça s'est organisé. C'était convivial. Il fallait passer cette période. Ce qui a expliqué qu'on a explosé ensuite, après, lorsqu'on est arrivé à des chiffres convenables. On est allé en vacances. Et on a, à un moment donné, franchi une étape que l'on paye maintenant aussi.
Et à l'inverse, pendant le confinement, si on était, par exemple, on avait un problème de consommation lié au cannabis, les jeunes, vu qu'on ne pouvait pas trop sortir, est-ce qu'ils ont baissé leur consommation vu qu'ils avaient du mal à s'approvisionner?
Un peu sevrage forcé, quoi.
Est-ce qu'il y a
une
forme de sevrage? Au contraire, ils se sont débrouillés, ils ont continué.
Alors ça, c'est ce qu'on avait pensé la première semaine.
On s'est dit, bon, ils ne peuvent pas sortir, bah, ils vont arrêter d'office.
Mais les trafiquants se sont organisés. Ils ont des applications.
Livraison à
ils
domicile.
Des livraisons à domicile. Ils ont majoré le prix. Il y a un problème d'acheminement.
Puis ils achetaient peut-être plus.
Il y a un problème d'acheminement des drogues internationales. Ensuite, ils se sont adaptés. Le chemin international s'est réorganisé. On a donc eu une majoration de 10 voire jusqu'à 15% et parfois 20% pour certaines populations des drogues. Ce sont des chiffres OFDT, l'Observatoire français de drogue et toxicomanie. Pour ce qui est de l'alcool, vous me posiez la question. Les Français n'allaient pas au restaurant. Évidemment, restaurant, bar.
Mais on dit bar fermé, donc moins d'alcool. Non, non, mais ils ont acheté au supermarché. Ouais,
voilà, le débit de boissons sont restés ouverts. Et tant mieux. À titre personnel, moi, j'étais présent de la FFA lorsque le préfet, je crois, de la Manche avait décidé de fermer les. J'ai dit stop, on va créer des sevrages, des accidents,
c'est
les hôpitaux sont pleins.
Bien sûr.
Laissez-les boire, on les gérera autrement. Alors, il y a eu des modifications, par exemple, dans le choix des produits. On a consommé, par exemple, du vin de grande qualité. Puisqu'on est à la maison, on se fait plaisir. Donc on achète des bonnes bouteilles, mais on prend de l'alcool. Hein.
Oui. Et que, vous avez la même quantité d'alcool, qualité ou pas, c'est de l'alcool.
Dans du cidre, dans du champagne, dans du whisky et dans je ne sais quoi, lorsque vous avez des verres de bistrot. Mmh. Ah, c'est ce qu'il faut avoir en tête.
On a dressé là, jusque-là, professeur Benyamina, un petit bilan de ce qui se passe finalement. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement, le ministre de la Santé par exemple, a suffisamment pris la mesure de ce risque, de finalement cette vulnérabilité aux addictions que nous, Français, ben, on peut tous avoir dans des conditions extrêmes. On n'est pas forcément addict d'habitude, mais là, dans ces conditions de crise, finalement, bah, il peut y avoir plus d'addiction, plus de problèmes de santé mentale. Le gouvernement en a pris confiance ?
Il en a pris conscience parce que, rappelez-vous, il y a une conférence de presse au cours de laquelle Olivier Véran et Jérôme Salomon, ils en ont parlé parce que c'est une vraie vague qui était en train d'arriver. Hier, donc, j'ai assisté à une réunion avec le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, sur Covid et psy, avec la commission prévention et santé mentale et souffrance. Et la réalité, c'est que 90% de ce qui a été dit, c'était en lien avec cette question, qui est une vraie question. Et très souvent, comme vous le savez, Mélanie et Jimmy, on a des liens très étroits entre la souffrance psychique et la consommation des produits psychoactifs. Parce qu'on a un faux ami, c'est le premier psychotrope disponible sous la main, le psychiatre est moins souvent sous la main, que la consommation des produits qui apaise la souffrance et le stress. Donc on a un véritable enjeu à explorer, à évaluer et à prendre en charge après, évidemment.
Professeur Benyamina, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est Amine Benyamina. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Saclay, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et président de la Fédération française d'addictologie et d'addictaid. Alors professeur, on va détailler quelques exemples précis justement de situations dans lesquelles peut-être certains de nos auditeurs se reconnaîtront. On va commencer peut-être par l'alcool, évidemment. De nombreux Français, on en a déjà un petit peu parlé. Ont pris de mauvaises habitudes, un petit verre de vin tous les soirs, ce qui n'était pas le cas avant, des apéros Zoom alcoolisés trop fréquents. Est-ce que ce genre de situation que je viens de décrire, est-ce que c'est déjà de l'addiction ?
Non, ce n'est pas de l'addiction. L'addiction, c'est quand même un tableau dans lequel les gens sont malades.
Enfin, si c'est tous les jours depuis un an...
Tous les jours depuis un an et qu'ils ont du mal à s'arrêter et qu'ils ont ce verre qui commence à faire tchin-tchin dans la tête à partir de midi parce qu'à 19h, je bois mon verre, il faut se poser des questions sur son rapport à l'alcool, même si c'est un verre. Donc non, il ne faut pas faire peur aux Français. Simplement ceux qui ont modifié leur comportement et qui se rendent compte que finalement, j'ai besoin de ça. Donc il faut faire des pauses, il faut réfléchir au contexte. Il ne faut pas transformer finalement un plaisir en une forme d'autothérapie.
Et justement, des personnes qui vapotaient ont pu être tentées ou ont recommencé à fumer.
Je reconnais, j'ai subi, j'avoue, en mars, j'ai eu envie de fumer. Je ne l'ai pas fait, mais
c'est fréquent.
Ça, hein,
si on bascule,
j'ai eu une
est-ce
tentation.
Que c'est foutu, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est difficile de se retourner en arrière? Est-ce qu'il faut malgré tout, est-ce qu'on peut être pris en charge quand même?
Ce n'est jamais foutu. En revanche, ça peut être difficile. Le tabac est une addiction absolument terrible, difficile. Et rappelons rapidement, on va faire peur un tout petit peu.
Allez, un peu.
Tabac et alcool, c'est 112 000 morts tous les ans. Quoi. On n'est que 120 000 morts. Donc, on a deux fois les morts du Covid tous les ans en France. On ne se rend pas compte. C'est comme ça qu'il faut voir.
C'est important de le rappeler de temps en temps.
Mais oui, ce sont ce qu'on appelle des facteurs modifiables. C'est-à-dire, c'est notre comportement qui nous amène à faire que 120 000 morts liés directement à ces deux produits. Hein, vous voyez ? Donc, ça, c'est important. Le tabac, quand on a réussi à quitter, ça serait vraiment très idiot d'y revenir. Hein. Il faut vraiment se décentrer et ne pas faire ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire une hiérarchie du risque. La Covid, on y viendra à bout. Ensuite, les problématiques du tabac, c'est une pathologie, l'addiction pathologique chronique avec des dommages qui s'installent. Il faut vraiment, à tête froide, faire la balance entre les choses. Hein. Il ne faut pas se dire, tiens, allez, Alain, Folleville, on boit, on fume, on verra après. Non, certaines personnes sont vulnérables, elles se réaccrochent à des problèmes et à des consommations qui vont entraîner plutôt des problèmes.
Que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis, comment monsieur et madame tout le monde, vous l'avez dit déjà un petit peu pour l'alcool tout à l'heure, mais est-ce qu'on a des repères qui existent, je ne sais pas, des tests en ligne, des choses pour mesurer si on a un risque d'addiction?
On a tout ce qu'il faut et d'ailleurs, je vous remercie Mélanie, vous l'avez cité, vous allez sur la plateforme addicted.fr, vous avez tout.
Des tests d'auto-évaluation, quelques questions.
Des tests d'auto-évaluation, d'orientation, avec une arborescence qui vous permet d'aller voir la personne qui, ou bien le...
Et ça donne déjà une bonne idée de son niveau éventuel d'addiction.
Absolument, tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments actuellement...
Donc sur le site d'Addicted, c'est ça.
Tout à fait. Il y a des tests grand public, des tests en population générale, des tests en population dite clinique. Donc il y a absolument tout. Il suffit de se pencher et d'y aller. Et je remercie Europe 1 de faire le relais.
Alors, au-delà des addictions, c'est toute la santé mentale des Français qui est un peu en berne et qui est inquiétante, notamment celle des jeunes, des plus jeunes, des adolescents. Est-ce que le manque de vie sociale, le manque de lien avec les autres, parce qu'ils veulent protéger leurs anciens, mais ils ont besoin de discuter, ils sont seuls, souvent, dans des petits appartements, est-ce que ça peut avoir un impact prolongé et durable sur leur santé mentale?
Alors, c'est absolument dramatique ce que vivent les jeunes. C'est vraiment très, très dur au moment où on veut croquer la vie, on veut croquer dans la vie active, et puis on veut sortir aussi de la dépendance des parents et des adultes. Ça, c'est une réalité. Certains jeunes vont en pâtir. Pas tous, évidemment, parce que il y a ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité. Rappelez-vous, je ne suis pas psychanalyste, mais j'ai quelques notions. Le cristal de Freud, c'est-à-dire on a tous des angles comme ça de fragilité à la faveur d'un gros stress, ce cristal va se fissurer toujours dans les mêmes angles. Et une situation comme celle-là, une grande pandémie, des jeunes qui ont besoin
d'aller cette sortir, relation, d'aller en boîte de nuit, de danser, de se voir, bien sûr.
Ils ont besoin d'organiser les choses. Ça va laisser probablement quelques traces pour certains, mais pas pour tous, que les choses soient claires. Rappelons-nous une chose, avoir 18 ans, 19 ans, on ne l'a qu'une seule fois dans la vie. Et puis, lorsque on se tape deux confinements et peut-être des couvre-feux qui ressemblent à des confinements, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, il va falloir que l'on puisse, une fois sorti de cette période
penser à eux, penser à
morose,
cette population.
Difficile pour nous tous, il faut vraiment se penser là-dessus et mettre en place des stratégies à la fois thérapeutiques, mais en même temps sociales et sociétales.
Est-ce qu'il y a plus de dépression? Là, je ne parle pas forcément que des jeunes, en population générale, dans votre service, vous êtes addictologue, psychiatre. Enfin, est-ce qu'il y a plus de troubles du sommeil? Est-ce que c'est quelque chose déjà que vous mesurez en consultation, un afflux comme ça de nouveaux patients?
Je n'ai pas qu'un service d'addicto, comme vous l'avez remarqué. J'ai un service de psychiatrie, un service de troubles des conduites alimentaires. Et dans mes trois services, j'ai une majoration des pathologies liées aussi à l'environnement. C'est évident. On a par exemple chez les jeunes filles TCA, on a troubles des conduites alimentaires, une majoration des boulimies, on a des conduites qui reviennent, des personnes qui étaient difficilement stabilisées qui rechutent. Sur le secteur psychiatrique où je travaille, on a des grands patients schizophrènes qui ont du mal à s'accrocher, ils sont angoissés. On a des personnes qui, par exemple, à la faveur d'un confinement, j'en ai eu quelques-uns, qui sont restés, qui ont eu très peur, des personnes âgées avec qui sont hypertendues, un peu gros, obèses, tout ça. Ils ont eu du mal à sortir. Ils ont ce qu'on appelle le syndrome de la cabane. Donc après, ils étaient très compliqués dans leur esprit. C'était très compliqué pour eux de sortir de ce stress. On a un vrai boulet de feu lié à cette pandémie.
Et la téléconsultation, ça vous a aidé pendant cette période? Ça a bien
beaucoup,
marché?
Beaucoup, ça a permis.
C'est efficace quand même avec ces patients-là?
Ça ne remplacera jamais la consultation en présentiel, que les choses soient claires. Ce n'est pas la peine de fantasmer. Heureusement qu'il y a la téléconsultation. Imaginez les difficultés de se déplacer. Mais si on peut faire en présentiel, moi, je fais en présentiel avec mes équipes. Voilà. Maintenant, parce que je me suis rendu compte que nos patients ont été un peu largués à un moment donné. C'était vraiment le naufrage.
Professeur Benyamina, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne cet après-midi, c'est Amine Benyamina. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Paris-Saclay, chef de service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et puis président de la Fédération française d'addictologie et d'Addicted. C'est tellement long que j'ai du mal à finir tous ces titres.
Trouvez-vous des excuses.
C'est ça. À présent, professeur, on va s'arrêter donc sur ce dry January, cette opération qui a démarré le 1er janvier. Un mois sans ou avec moins d'alcool, vous allez nous préciser d'abord justement ce que ça s'adresse à qui cette opération?
Alors c'est plus facile de dire le défi de janvier. Donc,
oui, c'est vrai qu'en anglais.
Et la traduction est plus vraie, elle colle plus à la réalité. C'est-à-dire le fait de pouvoir se lancer dans une opération au cours du mois de janvier où on se dit, bon, je ne bois plus d'alcool pendant un mois, je ne bois plus d'alcool pendant un mois parce que j'ai eu des excès du mois de décembre, mais en même temps, derrière ça, il y a une philosophie.
C'est pas pour ceux qui souffrent d'alcoolisme, on est d'accord.
Non, c'est pour tout le monde, y compris pour ceux qui nous disent assez souvent, mais moi je ne bois pas beaucoup, est-ce que je fais le défi? Si, le défi c'est de ne pas boire et de voir ce que ça donne. Donc ça permet dans l'immédiat d'avoir un certain nombre de résultats.
Mais on l'a dit, en ce moment, il y a des gens qui boivent un peu plus que d'habitude, qui ne sont pas forcément des gens qui ont un problème d'addiction. C'est pour ces gens-là, c'est très bien de faire
et
ce défi.
Ça tombe très bien. Je vous remercie. Vous m'avez donné un peu la suite de mon raisonnement. C'est que tout le monde dit, mais pourquoi je vais faire le défi de janvier ?
Je suis pas alcoolique.
Les bars sont fermés, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, je ne suis pas alcoolique. Oui, mais bon, mais en même temps, on a bien vu qu'il y avait une majoration parce que la nature a horreur du vide et on a compensé par des prises d'alcool. Parce que c'est le produit le plus facile et c'est le psychotrope français qui est le plus souvent utilisé. Donc, c'est un moment pour faire une pause gentille, conviviale, ludique.
Mais cette année, est-ce que ce n'est pas plus difficile que d'habitude, puisque le moral des Français n'est pas très bon? Et quand on leur en parle, on a l'impression qu'on leur enlève leur dernier bouée de sauvetage, le dernier plaisir. C'est, et c'est peut-être là le problème.
On entend beaucoup, on m'interdit tout en ce moment, alors mince, laissez-moi ça.
C'est malheureusement ce qui revient.
C'est vrai, simplement, l'alcool n'a jamais été un traitement.
Et
c'est
oui.
C'est ça le faux ami. Si vous me dites, Jimmy, moi, je veux bien boire un verre quand je suis heureux, tout ça, je dis, bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, voilà. En revanche, si on me dit, bah, écoutez, si en même temps, je ne peux pas prendre un verre alors que je n'ai pas le moral, là, je me dis, attention, il y a un problème.
Si tu bois un verre parce que tu n'as pas le moral, ce n'est pas normal, c'est ça. Hein
bah, il vaut mieux éviter, ou du moins, il faut en avoir conscience.
Ouais. Est-ce que c'est une opération qui est soutenue par les pouvoirs publics d'ailleurs ou pas? Parce qu'on a l'impression que bon, il y a beaucoup de médecins qui en parlent sur les plateaux télé, radio.
Non, c'est soutenu. Absolument. C'est une opération qui est l'initiative de plusieurs associations, une trentaine. On l'a déjà fait l'année passée.
Ça a du succès cette année. On sait s'il y a des inscrits d'ailleurs.
On va voir. Il y a des inscrits. Ouais. Il y a des inscrits. Je pense qu'il y a une émulation. Et puis, ce qui est vraiment très agréable, c'est qu'il y a un relais par les médias qui est très bon. Parce que c'est quelque chose qui très clairement intéresse les Français, qu'on le veut ou pas.
Alors, moi, je le fais. Hein, j'en suis à mon 15e jour hein, de défi. Je l'ai fait l'année dernière. Je recommence cette année. C'est très bien de faire une
on
petite pause.
Poids, on est bien. C'est vraiment très bien. Pour ce qui est des pouvoirs publics, ils avaient commencé à préparer un projet l'année passée. Et puis, il y a eu un stop dont on sait...
En France, c'est compliqué de monter ce genre d'opération.
Tout à fait.
Alors justement, vous avez parlé un petit peu des bénéfices. Parce que souvent, les gens, quand on leur en parle, même avec conviction, on leur dit arrêtez de boire pendant un mois. Ils lui disent mais... quel impact ça va avoir sur le reste de l'année? Est-ce qu'on peut essayer de les rassurer, de les motiver, de les convaincre de rejoindre Mélanie en cours de route?
Alors, en immédiat, alors ça a été évalué, validé, même ça a fait l'objet de publications.
Parce qu'en Grande-Bretagne, ça existe depuis un petit moment déjà.
Complètement. Hein, l'Université du Sussex, ils ont fait un gros travail dans lequel ils avaient une population qu'ils avaient appréciée et mesurée. Il y a un papier qui est sorti, même pas qu'un seul. Perte de poids, meilleur sommeil.
Meilleure peau, je crois.
Meilleure peau,
vous avez
moins
vu
stress,
comme je suis lumineuse, Jimmy,
des
aujourd'hui.
Économies. Et puis un truc, la résistance à l'insuline s'est améliorée, donc c'est important pour la prise de poids. Donc on a que
et
des choses.
Et sur la consommation, après, il y a des données. Est-ce qu'on va boire moins après?
Absolument, sur la
comment
consommation,
ça se passe,
ouais. On s'est rendu compte que
l'idée,
six mois,
c'est pas de boire plus jamais de sa vie, hein, c'est pas ça, on est d'accord.
Tout à fait. On s'est rendu compte que, une fois passé le mois de janvier, six mois après, on avait encore des gens qui buvaient moins au cours des occasions, en quantité et en qualité. Donc on a, on reprend en quelque sorte la gouvernance finalement de sa consommation et qui reste une consommation de plaisir.
Et ceux qui n'arriveraient pas à faire ce challenge justement, ceux qui n'y arrivent pas, qui vont dire non mais malgré tout j'ai essayé, j'ai pu diminuer un peu mais ça ne marche
pas.
Je n'ai pas tenu. Qu'est-ce que ça révèle justement cet échec que je mets entre guillemets?
Absolument, ça n'est pas forcément des personnes malades. En revanche, on voit le poids finalement de l'habitude, le poids de l'environnement social. Le poids de l'environnement sociétal, il faut se poser des questions. Certains peuvent être malades. Pour le coup, ils peuvent, comme le disait Mélanie, aller s'évaluer sur des sites ou alors tout simplement prendre le téléphone et prendre un rendez-vous pour discuter avec des professionnels.
Pour ceux qui sont en plein dedans, là, en ce moment, comme moi, je vous demande du coup officiellement, professeur Beniamina, quelques conseils. Même, si ça va, hein, je tiens le coup. Mais comment on fait pour pas utiliser l'alcool pour décompresser? Est-ce qu'il y a des petits conseils pour bien le faire, pour bien le tenir, ce challenge?
Vous allez sur l'éphéméride de Halle-Colline, vous avez tous les jours une recette, un cocktail, une attitude.
Sans alcool, évidemment, délicieux, mais sans alcool.
Donc, les premiers jours sont compliqués parce qu'on n'est pas pour autant
alcoolique,
il y a des habitudes,
des
réflexes. Il y a un rythme qui s'installe, il fait pas jour, on se détend avant le journal, voilà. Donc il y a, comme dit un copain de manière assez trivale, c'est Ricard moins le quart, donc c'est le moment c'est l'heure où on prend l'apéro. Oui, c'est comme
d'accord,
ça.
C'est bon, des automatismes un peu. Ouais.
Voilà, donc ça, il faut le casser par autre chose. Il faut éviter d'être surpris par son envie.
D'accord. C'est et on va voir pour alors les petites astuces
Halle-Colline,
là.
Halle-Colline sur Twitter, vous avez ça.
Halle-Colline,
voilà.
Halle-Colline.
Donc
d'accord.
Voilà, il y a pas que ça, mais à tous les sites, il y a. Il y a le site de l'Association Addiction France, la FFA, l'AMPA, tout le monde.
On aura plein d'astuces.
Est-ce qu'il faut en parler aux proches? Parce que c'est parfois un peu mal vécu. Oui, mais des fois, quand on dit « Ah, mais tu ne bois pas d'alcool !»
Oh, t'es rabat-joie
Il faut annoncer, comme le fait de manière extraordinairement bien Mélanie, il faut « Moi, je fais cette année le défi de janvier ».
Pourquoi?
C'est pas « Moi, je suis alcoolique, je ne bois pas », c'est pas ce qu'elle dit.
C'est ça.
Moi, je fais le défi de janvier.
C'est ça.
Et donc, je vous invite à le faire comme moi.
Ouais. Comme ça, on nous propose moins aussi, ça aide hein, de le dire, franchement.
Absolument,
parce que on n'a pas de sollicitation.
Vous annoncez la couleur, voilà. Hein, c'est mieux. Hein. Et puis, vous transformez finalement le sens de la ringardise. Hein.
C'est ça. Il y a même une appli. Hein,
Try Dry. Try Dry.
Là, c'est en anglais pour le coup. T-R-Y, plus loin, D-R-Y. Et donc là aussi, on a un éphéméride, des encouragements.
Tout y est.
Enfin, c'est vraiment pas mal. Et alors, professeur Beniamina, à la fin du mois de janvier, donc hop là, c'est parti, on ressort toutes les bouteilles et c'est parti pour la fête.
Ce qu'on appelle, on appelle ça le syndrome du ressort. On voilà. Tient et après, tchoup, on
c'est
part.
Un peu le risque, hein, c'est ça, j'imagine.
Ça mais, peut être le risque, ouais. Mais honnêtement, la plupart de ceux qui me disent ça, je leur dis. Faites l'expérience, vous verrez. Parce qu'à partir du mois de février, vous êtes sur le même rythme.
Franchement, on n'a plus envie. Moi, je l'ai fait l'année dernière. C'est vrai qu'en février, après, on ne se jette pas dessus, franchement.
On n'est pas les mêmes. Ouais. Au 31 décembre, au 1er février. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'apprécier les grands vins ou bien le bon champagne. Hein. C'est pas ça. Hein.
C'est autre chose. Bon, très bien. Merci beaucoup, professeur Beniamina, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Merci
c'est
encore.
Moi.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. À présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Benjamin, on connaissait le mois sans tabac, le mois sans alcool, on vient d'en parler. Et dorénavant, il existe le mois sans shampoing. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Eh ben, c'est tout simplement le fait de ne pas se laver les cheveux durant 30 jours. Alors, ça fait partie de cette mode.
Sans shampoing, jusque-là, Benjamin.
Oui, mais c'est la mode du naturel.
Ça méritait des précisions, c'est bien.
Et c'est surtout parce qu'on a tendance, en fait, à prendre de mauvaises habitudes quand on se lave les cheveux, comme l'explique le coiffeur Axel Joubert.
Souvent, on utilise des shampoings qui vont être trop détergents. On enlève tout le sébum qu'on a accumulé sur le cuir chevelu. Et le corps, il l'interprète d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il va falloir resécréter du sébum pour relibérer des substances. Donc du coup, plus on va faire des shampoings, plus on va sécréter du sébum. Donc plus on va avoir la sensation d'avoir le cheveu gras et il va regresser de plus en plus vite.
Et c'est justement pour stopper ce cercle vicieux que l'on va faire cette cure de sébum. Vous savez, généralement, lorsqu'on ne se lave pas les cheveux, ils graissent. Eh bien, c'est parce que le corps et donc le cuir chevelu sécrètent du sébum. Et en laissant ce gras naturel, eh bien, il y a deux avantages. Le premier, eh bien, vous faites du bien à vos cheveux puisqu'ils sont bien hydratés. Et le deuxième, c'est qu'après cette cure, eh bien, vous allez pouvoir espacer vos shampoings, comme le précise Axel Joubert.
L'idée, c'est de repousser les shampoings. Vu qu'on a une régulation naturelle des glandes sébacées qui libèrent le sébum, on va repousser les shampoings. On dit que pour normalement une personne qui se lave les cheveux une à trois fois par semaine va pouvoir espacer ses shampoings, va pouvoir faire plus qu'un shampoing par semaine. Quoi. C'est une solution naturelle finalement pour empêcher une sursécrétion de sébum en fait.
Et après une cure d'un mois, généralement, on va gagner en volume et en brillance du cheveu.
Je vous cache pas, Benjamin, ça a l'air écœurant, mais si jamais on était un peu foufou, un peu mazoué, qu'on voulait faire une cure de sébum, est-ce qu'on peut quand même faire quelques soins ?
Non, Jimmy, aucun soin. Pas de masque.
Juste du gras, Jimmy, c'est tout.
Pas d'après-shampoing. Mélanie, je vous vois venir. Pas de shampoing sec.
Même pas. Oh là là.
Et non, la seule chose qu'il recommandait, c'est de vous brosser les cheveux tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour éliminer les saletés, la poussière d'une part, mais aussi pour bien répartir le sébum jusqu'aux longueurs, de sorte eh bien, que le cheveu soit gras des racines jusqu'aux pointes.
Alors Benjamin, en dehors du fait d'avoir des nausées, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Est-ce qu'on peut le faire avec n'importe quel type de cheveux, comme les jolis cheveux bouclés de Jimmy ?
Ça marche avec tous les cheveux, qu'ils soient lisses, bouclés ou même crépus. Jimmy, tout le monde peut le faire. Mais
oui, j'ai dit bouclés, c'est vrai qu'ils sont plutôt crépus.
Attention, si vous venez de faire une couleur ou des mèches, eh bien, vous savez que ça demande des soins pour
Jimmy,
entretenir
pas, à cause de vos
cette coloration. Et donc, les spécialistes conseillent eh bien, de faire cette cure, mais moins longtemps, 2 à 3 semaines maximum.
Voilà. Benjamin, est-ce qu'on peut gérer une vie sociale quand on fait une cure de sébum ?
Oui, c'est possible. Alors, c'est vrai, c'est pas très esthétique. Hein, le cheveu gras n'est pas à la mode, ça fait pas très
propre.
Il
faut mettre un chapeau, tout le temps un chapeau. C'est ça.
Alors, je préviens, si jamais vous tentez l'expérience, la transpiration va s'accumuler et donc de mauvaises odeurs peuvent survenir. Et contre ça, eh bien Kelly Yino, une passionnée de cheveux et fondatrice de l'application Afrizi, a la solution. On l'écoute.
On peut utiliser de l'eau déminéralisée avec de l'eau de rose ou de l'eau de lavande, des eaux florales. Mettre l'ensemble en fait à moitié-moitié dans un flacon de type spray qu'on peut retrouver dans des grandes enseignes très facilement. Et après, venir vaporiser du coup une fois tous les 2 jours, par exemple, sur le cuir chevelu, la base des cheveux, pour parfumer un petit peu.
Et puis contre cet aspect huilé, bon, si vous êtes en télétravail à la maison, c'est le bon moment de le faire.
Oui.
Mais pour les autres, conseil évident, c'est de s'attacher les cheveux. Hein. Profitez-en pour essayer des tresses ou faire un chignon plaqué style danseuse ou bien détourner l'attention.
Non,
avec
j'ai pas les cheveux gras, j'ai du
rouge à lèvres claquant. Mais oui, un beau rouge à lèvres claquant rouge ou bien porter un joli bandeau coloré. Mm-hmm. Enfin, dernier petit conseil, étant donné que le cheveu va énormément graisser, eh bien changez plus régulièrement vos têtes d'oreiller.
Ah mais c'est crade, c'est moche, ça pue. Et
c'est
ça,
un mois, c'est un mois à tenir.
Jimmy, je suis sûr que vous allez vous lancer dans une cure de sébum.
Jamais de la vie, franchement. Enfermez-moi, Mélanie.
Bon, ça pue, c'est moche, mais c'était intéressant.
C'est
merci
bon pour
beaucoup.
Vos cheveux.
Voilà, c'est bon pour les cheveux. Merci, Benjamin Lévesque.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, l'amour, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de la semaine. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine en beauté avec une question de Wilfried. Je vous dis ça, j'ai même pas lu la question encore, on va voir de quoi il s'agit. Ma copine...
On fait confiance
oui,
à Wilfried.
Oui, j'ai dit en beauté, j'espère que ça intéresse, on va voir ça. Ma copine me fait une scène à chaque fois que je regarde une autre femme dans la rue. Je lui explique pourtant que ce n'est pas parce que je regarde d'autres femmes que je souhaite sauter sur tout ce qui bouge. Comment lui faire comprendre? Ben oui, on termine en beauté avec une explosion de jalousie. Est-ce que c'est très fréquent comme conflit, ça, dans un couple? Ben, on est dans la rue, l'homme ou la femme regarde un autre homme ou une autre femme et ça amène des disputes. Vous en entendez parler de ce genre de problème?
Alors,
en consultation,
d'abord,
par exemple,
il est normal de regarder les gens que nous croisons, indépendamment de savoir s'ils nous plaisent ou non. Et quand ils nous plaisent, il est normal qu'on s'arrête sur ce qui nous émerveille, comme un oiseau, une fleur et pourquoi pas un beau mec ou une belle femme, si l'un et l'autre nous croisent, évidemment. Donc ça, c'est plutôt assez logique, assez rassurant d'ailleurs. On n'est pas des aveugles et on sait jouir de notre environnement et ça, c'est merveilleux. Mais évidemment, pour le partenaire ou la partenaire qui peut être insécurisé, et donc ça, c'est une faille narcissique, ce peut être vécu comme étant une remise en question de soi. Et du coup, il explose des scènes de ménage, même dans la rue. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens.
Arrivé, je crois.
Voilà, de croiser des gens qui se reçoivent des coups de coude, des agressions,
moi,
des
aboiements.
Moi, j'ai
déjà fait pour plaisanter, j'avoue, le coup de coude, mais c'était plus pour dire « Eh oh, ça va, je t'ai vu hein. ».
Voilà, et ça, c'est plutôt une plaisanterie et une connivence. Ouais. Mais effectivement, il y a des gens qui sont extrêmement troublés par ça, parce que ça remet en question, alors pour peu qu'il y ait eu une dispute avant, pour peu qu'il y ait une fragilité du couple qui plus est. Mais indépendamment de ça, si la faille narcissique est forte et interne, toute personne qui est croisée est potentiellement une rivale et évidemment, du coup, ça génère beaucoup de tension.
Je suis sûre que ça va vous inspirer, Jimmy, ce sujet aujourd'hui.
Pas particulièrement, mais il y a peut-être aussi regarder et regarder si jamais l'homme se retourne.
Et se met à baver.
Mais voilà.
Oui, alors là, c'est
ou un regard lourd, insistant.
Ou comme dans un texte.
Se met à siffler.
Voilà, dans un texte avril.
Mais justement, mais où se trouve la limite? Qui la fixe? À quel moment on considère que c'est acceptable? Regarder dans les yeux, un peu plus bas.
Deux secondes, compliqué. Ça va. Voilà. À partir de 5 secondes, ça devient louche.
Est-ce qu'il y a un chronomètre? Est-ce qu'il y a des règles, justement?
Non,
de
savoir comment mater tranquille.
Non, pas du tout.
Au regret de ne vous donner le mode d'emploi exact, je pense que
on aurait bien aimé pourtant.
C'est l'émerveillement reste l'émerveillement. Et après, il y a le côté lubrique. Quand est-ce qu'on est émerveillé? Quand est-ce qu'on a un regard lubrique, appuyé, pénétrant? Et je fais exprès d'employer ce terme-là. Donc, oui. C'est un peu de là dont il s'agit. C'est-à-dire, à partir de quand je ne suis plus là où je suis, j'ai coupé ma conversation, je ne sais pas de quoi on me parle, je suis d'ailleurs agressive ou je m'éloigne de ma femme pour avoir l'air célibataire. Là, évidemment, on est complètement...
Le jour où elle fait ça, effectivement, moi, je ne mets pas un coup de poudre, hein, c'est un coup
de
genou.
Je jette mon alliance par terre, je pousse les enfants. Allez, mon petit,
laisse-moi
tranquille.
Ou on dit, écoute, maman, lâche-moi. Donc voilà, évidemment là, si on est dans des choses comme ça, on a bien compris
qu'on
est très inélégant. Mais sinon, regarder, sourire, avoir vu quelqu'un et même un clin d'œil, qu'est-ce que ça peut faire? C'est juste du jeu. Ça n'invite pas à... Tiens, dès qu'elle est partie, bobonne...
Oui, c'est pas une invitation à l'infidélité. Parce que parfois, on peut faire ce parallèle en disant s'il fait ça, c'est qu'il est peut-être infidèle ou qu'elle est... Parce que ça peut aussi toucher les femmes. Je pense que les femmes regardent aussi les hommes.
Bien sûr que les femmes regardent les hommes. Et j'espère bien qu'elles les regardent. Elles vont plaisanter sur...
On regarde les bijoux dans les vitrines. On regarde les hommes aussi dans la rue.
C'est ça. Et puis, à la caisse, on peut discuter avec celui qui est devant, celui qui est derrière. Et avec plaisir, où on peut s'être croisé deux fois dans un rayon et avoir un sourire entendu. Qu'est-ce que ça peut faire si ce n'est se faire du bien? Si ce n'est exister? Arrêtons d'avoir peur de tout et donc d'hypersexualiser tous nos rapports aux uns et aux autres.
Catherine, il y a Benjamin Lévesque dans l'oreillette qui me demande si la solution finalement c'est pas de porter des lunettes de soleil comme ça on ne se fait pas gauler comme il dit.
Alors Benjamin a toujours de très bonnes idées mais lui je crains que ce soit pour des choses plus inavouables réalité.
Mais donc les lunettes de soleil c'est pas le bon conseil non plus, d'accord?
Non mais si on fait ce qu'on veut bien sûr, mais en tout cas tout ce que je veux dire, laissez laissez-nous, laissons-nous
regarder ce qui est
regarder
joli, c'est
et éblouir et nous éblouir.
Merci beaucoup, Catherine. Pour tous vos conseils précieux, comme toujours, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour Mélanie. Mélanie. Oh, je sais que vous êtes une adepte des dieux du stade. Oui. Nous, c'est plutôt les dieux du sable, cantés dans le désert. Depuis trop longtemps.
Là, vous avez tenté de chanter
pas oui, oui, j'ai cru aussi.
C'est chanteuse aussi,
mais...
on l'a su. Eh bien, Isabelle Eberhardt, vous savez, qui a traversé le désert pour rejoindre l'Algérie. René Caillé, qui voulait aller à Tombouctou, mais qui est le premier à être revenu. Et puis, vous avez choisi qui, déjà, David?
Moi, j'ai choisi une idole de Mélanie, rien que pour elle, David Asseloff.
Ah oui, j'adorais en plus, c'est vrai. Pardon.
J'adorais. Là, il y a eu un cri du cœur, quand même, dans cette
vous
séquence.
Vous savez que là, il a traversé le désert. Oui. Là.
Vous savez quel âge il a?
Non.
Vous savez quel âge il a?
Il est jeune, il est tout jeune.
68. Ah, putain, ça fait un sac. Comme vous dites, ah putain,
non, j'ai pas dit ça.
C'est vrai, vous l'avez dit. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on se dit quand on découvre ce qu'est devenu David Hasselhoff.
Il a de beaux restes.
Non, il a de beaux restes.
On a l'impression que personne ne vieillit comme ça quand on a aimé les gens. Vous non plus, vous ne bougez pas. Non. Donc surtout, restez sur Europe 1.